Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler aujourd'hui malheureusement d'un sujet important qui est le sujet du génocide, en relation bien sûr avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Donc je voulais d'abord vous présenter mes excuses par avance de paraître présenter ce sujet sous un angle froid, avec des comparaisons qui pourraient paraître de mauvais goût, car il n'y a pas de souffrance humaine tolérable. Mais il faut tout de même savoir de quoi on parle, et c'est pour ça que j'ai décidé de retenir ce thème dans cette chronique. Alors, ce terme de génocide a été utilisé plusieurs fois. Il a été utilisé par certains en France pour qualifier l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et il est utilisé aussi, pas par tout le monde, mais en tout cas par un certain nombre d'interlocuteurs, pour qualifier l'attaque d'Israël sur la bande de Gaza. Alors, essayons d'y voir un peu clair et commençons par voir ce que dit les textes, ce que disent les textes internationaux dans ce domaine. Qu'est-ce qu'un génocide ? Eh bien, c'est fait, c'est écrit, hein, c'est l'article 2 de la Convention sur le génocide de 1978 de l'ONU qui nous donne la définition. Je cite : dans l'intention de détruire intégralement ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Donc une intention de détruire intégralement ou en partie. Hein. Et puis, plus loin, c'est précisé de quoi il s'agit. Alors, meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Alors on va retrouver la même définition dans la Cour pénale, enfin de ce que retient la Cour pénale internationale dans ses statuts de 1948. Alors le génocide n'est pas synonyme nécessairement de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, mais quelquefois ça se cumule. Alors je reviens rapidement sur ce qu'est un crime de guerre. Crime de guerre commis en temps de guerre, c'est quand on s'en prend aux civils et non aux belligérants. Et bon, l'exemple qu'on aura rapidement en tête, c'est le fait de bombarder un hôpital, par exemple. Crime contre l'humanité, c'est différent. D'une part, c'est pas nécessairement en temps de guerre, et c'est aussi une notion de quantité, si j'ose utiliser le terme. Alors ça peut être l'esclavage, l'apartheid. Donc ça, ce sont des crimes contre l'humanité, hein, les violences exercées sur une population, pas nécessairement en temps de guerre, et avec quand même une certaine quantification, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors voilà pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, en disant bien qu'on peut retrouver des aspects, des définitions dans les trois, enfin pour les trois situations, pour des mêmes faits. Alors en ce qui concerne le crime de guerre, l'ONU a déjà dit que pour ce qui est en train de se passer en Palestine et en Israël, ce sont des crimes de guerre perpétrés par les deux belligérants. Alors, pour ce qui est du génocide, j'y reviens, on comprend bien que les textes ne donnent pas de chiffres pour fixer un seuil, ce serait de mauvais goût, mais l'ONU, par contre, nous donne une indication quant à ce qu'elle a reconnu, elle, comme crime de guerre dans l'histoire moderne. Elle n'en a reconnu que quatre, d'ailleurs. Celui de la Shoah, celui du Rwanda, celui des Arméniens et un moins connu, celui des Herero et Nama en Afrique du Sud Est, où c'était un crime de génocide perpétré par les Allemands à l'époque. Elle ne parle pas, l'ONU, de génocide plus ancien, donc elle ne se prononce pas, elle n'en parle pas du tout, hein, puisqu'il faut se souvenir qu'en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et dans d'autres parties du monde, il y a eu des génocides, c'est-à-dire l'intention de détruire systématiquement un groupe ethnique. Ça s'est fait autant finalement des conquistadors, ça s'est fait plus récemment en Australie, ça s'est fait aussi au Congo belge, mais l'ONU n'en parle pas. Alors sur la question de la quantification, c'est pas nécessairement le critère essentiel, puisqu'on voit que les 1,7 million de morts au Cambodge récemment, hein, puisque c'était après-guerre, hein, sous Pol Pot, il y a pas si longtemps, ne figurent pas. Puisque là, en l'occurrence, il s'agit de motifs d'ordre politique et pas ethniques, religieux ou nationaux, comme le donne la définition du génocide. Donc ça échappe, les 1,7 million de morts au Cambodge échappent à la définition du génocide. Alors, pour aller plus loin, puisqu'on voit qu'il y a une intention dans le domaine génocidaire de détruire un groupe ethnique ou religieux, il faut revenir sur la situation dans cette partie du monde, en Palestine et en Israël, puisqu'on a bien compris qu'il y avait un problème de territoire et de colonialisme depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Mais il faut voir aussi un autre angle qui est l'obsession de la démographie, autrement dit, l'obsession de l'augmentation de la population, je dirais dans les deux sens, tant pour la Palestine que pour Israël. Alors, on oublie cette question démographique et on reste souvent sur la question du territoire. Pourtant, depuis 1947 maintenant, il y a eu des opérations de grande envergure de menées pour faire venir des populations en Israël principalement, pour occuper la place. Le terme de colonisation, d'ailleurs, est le terme juste, puisqu'il est même utilisé par Israël, hein, qui parle de colonies et de colons pour les places occupées sur le territoire palestinien. Alors, il y a plusieurs affaires dans le domaine, et en particulier, faire venir des gens qui sont de religion juive et leur donner la nationalité israélienne et même leur donner cette nationalité israélienne même s'ils ne vivent pas en Israël. Finalement, la confession juive est finalement un critère et le critère pour obtenir la nationalité israélienne. Alors c'est, je le dis puisque c'est tout à fait aux antipodes de ce que on vit en France. En France, on ne tient évidemment pas compte de la religion. Et en France, c'est ce qu'on appelle le droit du sol. Essentiellement, le fait de naître en France vous donne la nationalité française. Donc une conception tout à fait aux antipodes de ce qu'on peut vivre ici, hein, avec ce droit du sol et le fait qu'on s'interdit, à juste raison, hein, dans un pays comme le nôtre, de tenir compte de la religion ou de l'absence de religion. Donc il s'agit donc de créer un rapport de force par le nombre. Et ça, c'est vrai des deux côtés. Dans cet objectif, il faut inciter à une forte natalité et ça, c'est d'ailleurs clairement exprimé. Alors aujourd'hui, la Palestine compte 4,6 millions de personnes avec la bande de Gaza et avec la Cisjordanie. Israël compte 9,1 millions d'habitants, de personnes, enfin de nationalités, qui sont répartis avec 74% de juifs et 21% d'arabes. C'est une différence officielle, administrative, ce qui serait tout à fait inacceptable en France de faire des distinguos dans la population en fonction de leur origine. Alors il y a cette obsession de la natalité, pardon, qui est toujours présente, bien que les courbes de natalité aient changé Pendant longtemps, Israël a été fort inquiet du très fort niveau de natalité chez ce qu'ils appellent les Arabes israéliens, c'est-à-dire ceux qui sont de nationalité israélienne mais qui ne sont pas juifs. Bon, ça a été rattrapé en quelque sorte, puisqu'aujourd'hui, le taux de natalité des Israéliens juifs et des Israéliens arabes est à peu près le même. Il reste très fort, hein. C'est un taux de 3,5. Un taux de 3,5, donc, enfants par femme. Si on fait la comparaison avec la France, en France, le taux est de 1,8. Alors, ça, c'est le taux moyen, mais si on regarde spécifiquement celui des ultra-orthodoxes, qui sont principalement dans les colonies, par contre, là, le niveau de natalité, le taux de natalité explose. La natalité, le taux de natalité est une arme, cela est clairement dit et compris comme tel, en particulier chez les extrémistes. Pour ce qui est des Palestiniens, maintenant, ils n'ont pas bénéficié, le terme est impropre, mais j'en ai pas trouvé d'autre, de ces immigrations organisées, d'une part. Ils ne bénéficient pas d'une espérance de vie comparable, mais par contre, en taux de natalité, on est aujourd'hui sur une équivalence, puisqu'on est également sur un taux de natalité de 3,5. Alors, j'ai parlé de la natalité, j'ai commencé à parler d'espérance de vie, et on peut y regarder de plus près, puisque justement, on a un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui est sorti il y a peu de temps, c'était le 17 mai 2023, et il est très instructif. Je vous invite, pour les curieux, à le lire sur Internet. Il montre les différences sur les conditions de vie, sur les conditions d'accès aux soins, sur les conditions d'accès à l'eau entre la Palestine et Israël, qui sont très différentes et très importantes. Pour ce qui est de la différence de vie, elle est exactement inférieure pour un Palestinien de 10 ans de moins pour les femmes et également de 10 ans de moins pour les hommes, entre les Palestiniens qui vivent à Gaza et les Israéliens, dont 10 ans d'espérance de vie en moins, et c'était avant le 7 octobre. Et en ce qui concerne la mortalité infantile des moins de 5 ans, elle est en Israël de 4 pour 1000, et elle est en Palestine de 14 pour 1000. Donc on voit que la différence est très importante, hein, c'est plus du triple. J'en viens au sujet qui me préoccupait, c'était de savoir s'il y a, oui ou non, des objectifs de type génocidaire dans ce conflit. Alors, on a vu qu'il y a une obsession sur les proportions de population respectives. C'est dans les têtes des dirigeants politiques des deux camps, cela est établi. Alors, première question, est-ce que le Hamas a fait une opération de type génocidaire le 7 octobre? Alors, le nombre de civils tués ce jour-là a été revu à la baisse. Il fait l'objet de nombreuses polémiques. La guerre de l'information, qu'on peut appeler l'intox, en temps de guerre, a été particulièrement puissante, puisqu'on nous a expliqué qu'il y avait eu 40 bébés décapités. Il va s'avérer que c'était de l'intox en temps de guerre. Il est évident aussi que les tirs croisés du 7 octobre, puisque l'armée israélienne a riposté en bombardant massivement, a fait des morts qui étaient des Palestiniens, enfin les gens du Hamas plus exactement, et aussi des civils israéliens, mais on ne peut rien dire de plus aujourd'hui, car il n'y a pas d'enquête internationale, on a simplement les témoignages des uns et des autres. Alors, des journaux israéliens ont fait leur propre enquête. Ils situent le nombre de civils morts entre 900 et 1000. Par contre, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, on ne le saura peut-être jamais, c'est comment ont-ils été tués. L'ONU, pour sa part, parle par rapport à ce 7 octobre de crimes de guerre dans les deux camps. Voilà la seule chose qu'on peut dire, si ce n'est que l'offensive du Hamas ne pouvait prospérer au-delà de quelques kilomètres, ce qui a été le cas, hein, et pas plus d'une demi-journée, puisque l'objectif principal était de récupérer un maximum d'otages avec 1500 combattants du Hamas. Donc la question qui est, est-ce que cela répond à l'objectif de détruire intégralement ou partiellement un groupe national, racial, ethnique ou religieux par rapport à la définition du génocide? Je n'y répondrai pas personnellement, mais on voit là, en tout cas, qu'il y a tout de même un problème de proportion et de limite dans le temps, savoir si c'est ou pas un génocide, dans la mesure où on ne sait pas exactement qui a été assassiné de sang-froid aujourd'hui, est particulièrement périlleux, en tout cas, d'utiliser ce terme-là aujourd'hui. Et je le redis, cela n'excuse rien, bien évidemment, mais il faut tout de même essayer de comprendre, comprendre n'étant pas justifié. J'en viens à la question de l'attitude d'Israël. La direction de l'armée a annoncé officiellement vouloir raser le nord de la bande de Gaza. Quand on connaît la population et même la surpopulation sur ce territoire, c'est obligatoirement tuer de nombreux civils. Dans une autre partie du monde, ce type de déclaration aurait provoqué plus de réactions de protestation. Alors, en ce qui concerne les bombardements, l'armée israélienne a lâché plus de 40 000 tonnes de bombes sur ce territoire surpeuplé. Je rappelle que c'est un petit territoire qui fait à peu près un dixième de la surface d'un département français. Alors, si on raisonne en puissance, cela fait trois fois Hiroshima. Compte tenu donc de cette densité de population et de l'impossibilité de la population de fuir, cela fait obligatoirement de nombreuses victimes civiles. Les autorités palestiniennes annonçaient il y a quelques jours, le chiffre a dû augmenter malheureusement, plus de 13 000 morts et je ne compte pas les blessés. Ce chiffre évolue de jour en jour. Pour ce qui est de l'état de siège, donc là on parlait des gens morts sous les bombardements, pour ce qui est de l'état de siège, qui est un sujet un peu différent, la privation d'eau, de nourriture, d'électricité, de soins, finalement conduit obligatoirement à de nombreux décès, mais là-dessus on n'a pas de chiffres. La définition de l'ONU sur le caractère génocidaire, je cite, « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle » doit nous interroger donc sur la qualification à donner. L'OMS a indiqué déjà il y a longtemps, on peut dire, en tout cas plusieurs semaines, la situation des hôpitaux. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul hôpital dans la bande de Gaza qui peut fonctionner correctement. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'anesthésiant. Et la plupart des hôpitaux sont complètement inopérants, si l'on peut dire, et ceux qui fonctionnent encore fonctionnent dans des conditions terribles. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne les hôpitaux qui, comme vous le savez, sans doute ont été bombardés, détruits pour une grande partie d'entre eux, et cette position est tout à fait assumée par l'agresseur. Alors les choses bougent. D'abord, à l'heure où je vous parle, on espère que la trêve qui a été prévue par accord a commencé. Normalement, elle devait commencer ce jour vendredi. Mais les choses bougent aussi sur les qualificatifs. Ça bouscule à l'ONU. Dans une lettre datée du 28 octobre, Craig Mockibert, qui est le directeur du bureau new-yorkais du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, a annoncé sa démission. Il invoque comme motif le fait que, je cite, « Encore une fois, nous voyons un génocide se dérouler sous nos yeux et l'organisation que nous servons semble impuissante à l'arrêter. » Il dit, dans sa lettre de démission, « Le massacre général actuel du peuple palestinien, enraciné dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, se poursuit depuis des décennies de persécutions et d'expulsions systématiques. Il est entièrement fondé sur le fait que ces populations sont arabes et associées aux déclarations d'intention explicites du gouvernement et de l'armée israélienne, ne laissant aucun doute ou place au débat. » Voilà ce que dit donc ce haut dirigeant de l'ONU qui, du coup, donne sa démission. Et puis, par rapport à la situation politique, il faut rappeler aussi qu'actuellement, le gouvernement israélien est un gouvernement composite avec l'extrême droite messianique juive, hein, à l'instar de deux ministres, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont donc au gouvernement. Ce sont des extrémistes religieux et ils n'ont jamais fait mystère de leur volonté d'éliminer la présence palestinienne du Jourdain à la Méditerranée. Je le dis puisque c'est à mettre dans la réflexion. Alors il y a aussi un fait que l'on entend, en tout cas des affirmations que l'on entend, c'est la réactivation de la mémoire de l'Holocauste ou de la Shoah. Alors pour nombre d'Israéliens et d'Israéliennes, les massacres du 7 octobre ont fonctionné comme une réactivation mémorielle du génocide mené par les nazis. On découvrira plusieurs semaines plus tard qu'il n'y a pas eu 1400 civils de tués et que la plupart des atrocités qui ont été citées en leur temps ne sont pas une réalité. Néanmoins, le traumatisme dans la population est bien installé et il y a eu quand même de nombreux morts civils. Donc, cette parallèle avec la Shoah est entretenue. Alors, c'est vrai en Israël, mais c'est vrai aussi en France. Alors, il faut voir que finalement, cette utilisation de la Shoah n'est pas nouvelle par rapport aux qualificatifs donnés à l'adversaire, puisque Benjamin Netanyahu avait affirmé devant le chancelier allemand Olaf Scholz que les membres du Hamas étaient des nouveaux nazis. Ça, c'était il y a quelques semaines. Donc, on voit que c'est présenté comme tel. On sait aussi que le représentant d'Israël à l'ONU s'est mis à porter l'étoile jaune pour bien situer la victimisation et le niveau de la victimisation. Donc nous sommes devant une instrumentalisation de l'histoire, celle de la Shoah, qui n'est pas vraiment nouvelle puisque Yasser Arafat était comparé en son temps à Hitler par Begin. Alors, je voulais dire quelque chose là-dessus puisque non seulement ces types de comparaisons sont ridicules sur le plan des faits, ça c'est une chose, mais on ne compare jamais que ce qui est comparable. Et donc cela, de fait, minimise les atrocités, la Shoah, ce qu'on appelle aussi l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale, et de mon point de vue, cela insulte la mémoire des 7 millions de Juifs tués dans d'autres conditions. Cela permet aussi aux négationnistes de ressurgir, les négationnistes, sur le thème de la falsification de l'histoire, puisque, je le redis, on ne compare jamais que ce qui est comparable, et faire ce type de comparaison est très grave, puisque ça minimise finalement ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je voulais le dire, puisque cela me semble assez nauséabond. En conclusion, et je terminerai donc là-dessus, il est donc légitime de poser la question du comportement de type génocidaire. Je n'y répondrai pas, je me suis contenté de mettre les éléments sur la table en rappelant que l'assassinat des Palestiniens était monnaie courante, y compris avant le 7 octobre, puisqu'il y en a eu plus de 220 de tués entre le 1er janvier de cette année et avant le 7 octobre. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous dire aussi donc que la situation est d'une gravité extrême et que ça mérite la mobilisation de tous et de chacun pour exiger la paix. À bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Cueillus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.